Déjà, merci beaucoup parce que c'est un exercice extrêmement difficile hein, d'arriver comme ça sur le show à synthétiser des communications. Alors peut-être revenir sur la question de des résistances, qui est effectivement une notion complexe et qui est difficile à attraper. Déjà, est-ce qu'il y a des résistances individuelles ou est-ce que les résistances sont collectives? Quand on rompt un apprentissage, un contrat d'apprentissage, est-ce que ce n'est qu'un échec ou c'est aussi une forme de résistance, une façon de sauver sa peau? Enfin voilà, hein, c'est une notion compliquée. Moi, dans mon idée, c'était plutôt de me positionner plutôt face à une littérature, hein, une littérature sociologique qui a très longtemps décrit les jeunesses populaires, dont les apprentis, comme particulièrement dociles, soumis, sans ressources, qu'on retrouve un peu d'ailleurs dans Beau et Pialou, hein, chez les élèves en stage chez Peugeot. Hein, il nous dit qu'ils plient les chines, qu'ils n'ont pas d'habitus revendicatifs. Donc, moi, mon idée, c'était un petit peu de nuancer. Hein, je ne veux pas dire qu'on retrouve la classe ouvrière des années 50, mais c'était l'idée un petit peu de nuancer ces idées de soumission, de montrer que ces jeunesses populaires, elles ont aussi des formes d'autonomie, des pratiques. Hein, alors, est-ce que c'est des résistances? Est-ce que c'est une manière de se confronter aux contraintes? Et puis, l'idée, c'était aussi d'insister un peu sur les filles, puisque si les garçons sont traditionnellement apprentis et jeunesse populaire décrits comme soumis, alors là, pour les filles, d'ailleurs on le sait, hein, si elles réussissent à l'école, c'est qu'elles sont particulièrement dociles. Voilà, donc c'était aussi un petit peu d'insister sur l'idée que même s'il n'y avait pas de collectif de travail, il pouvait y avoir ces collectifs éphémères qui permettaient du moins de survivre, d'avoir une forme de respectabilité aussi, hein, voilà, donc c'était cette idée, sachant que je n'ai pas eu le temps d'insister, mais on dit que les jeunesses populaires sont soumis, mais on oublie souvent que les injonctions auxquelles ils sont soumis sont particulièrement violentes, et beaucoup plus violentes que pour des lycéens de l'enseignement général, par exemple. Et ce que je n'ai pas rappelé, mais c'est que pour certaines de ces populations, on a quand même affaire à des adolescents. Voilà, qui peuvent avoir jusqu'à 14 ans, hein, certains, quand ils rentrent en apprentissage. Donc c'est aussi la découverte des rapports sociaux, mais aussi la découverte du monde adulte, hein, avec ses contradictions et ses violences.
Merci pour les questions. Alors, je ne vais peut-être pas répondre à tout, parce que ça fait beaucoup de choses, mais il y a plusieurs choses qui reviennent et qui sont importantes, je trouve, sur l'idée de désidentification, d'abord. Et moi, je ne l'ai pas beaucoup regardé en tant qu'ouvrier, savoir s'il se définissait ou pas comme ouvrier. En fait, ça revenait jamais, j'allais dire très peu, mais jamais dans les entretiens. Du coup, ce n'est pas une question que je posais. J'essaie de le voir plutôt en tant que professionnel. Est-ce qu'il y avait vraiment des formes d'identification en tant que professionnel et comment est-ce qu'elles ont évolué? Parce qu'en fait, il y avait toute une partie de la recherche qui était un peu socio-historique, de comprendre comment l'entrepôt a évolué. Alors même si c'est toujours difficile à caractériser, moi j'ai quand même l'impression de pouvoir dire, parce que c'est présent dans tous les entretiens, des ouvriers comme des cadres, qu'il y a une perte des références au métier et une difficulté à s'affirmer en tant que professionnel. Et qu'il y a quand même eu un changement par rapport à ça. Il y a une époque où c'était possible et ça ne l'est plus. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est ça renvoie à la question sur la question de la dimension productive du travail ouvrier, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à dire qu'on est préparateur, on fait de la PrEP ou les choses comme ça, mais ça c'est quelque chose qui a quand même évolué dans une période récente. Et ce que je trouve intéressant, c'est que notamment, la plupart des ouvriers ne se rendent pas compte, puisqu'en fait il y a beaucoup de turnover, donc c'est pas quelque chose qu'on peut avoir en enquêtant auprès d'intérimaires. Les anciens le mettent beaucoup en avant, les anciens savoir-faire, mais ça parfois c'est aussi un peu reconstruit. Par contre, ça m'a beaucoup intéressé de voir que c'était omniprésent dans les discours de la hiérarchie, sous la forme d'une autocritique également, de dire aujourd'hui, le préparateur de commande, son activité, il la voit juste comme poser un colis sur une palette et il ne voit plus le client. Parce qu'en fait, effectivement, tout le process de travail, il tend vers ça, j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure. D'où l'idée aussi de mobiliser autrement. Et ça, c'était assez fort, très très fort dans le coaching et le briefing, l'idée d'essayer de compenser la perte de sens au travail en amenant des choses dans l'espace de travail, en amenant des interventions extérieures ou des sorties de l'entrepôt comme des visites de supermarchés avec le responsable, avec le responsable des relations commerciales, qui sont de façon individuelle, ouvrier par ouvrier, au cours d'une année, ils vont tous aller visiter un supermarché. Donc vraiment une volonté de rattraper comme ça quelque chose qui aurait été perdu sur les formes d'identification. Sur la question des résistances, effectivement, alors moi j'utilise pas le terme parce que en fait c'est un univers, je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais on est vraiment dans un univers très ouvrier, très masculin. Sur les sociabilités, c'est vraiment des sociabilités très masculines, avec du coup beaucoup, et c'est là qu'on voit le mieux que c'est un univers ouvrier en fait, avec des formes traditionnelles du monde ouvrier, avec beaucoup de blagues, beaucoup de sociabilité, c'est très intense au niveau de la sociabilité, beaucoup de contournements, beaucoup de vols aussi, c'est quelque chose qui est omniprésent dans les entrepôts. Et pour autant, parler de résistance, c'est un peu compliqué pour moi, j'avais là vraiment l'impression que c'était l'enjeu, c'est pour eux, c'était de, ou au quotidien pour les ouvriers des entrepôts, c'est de faire avec plus que de faire contre. Du coup, résistance, ça me paraissait. Alors peut-être, il doit y avoir des moments où je dis dans certains textes peut-être petite résistance, mais voilà, c'était vraiment l'idée de faire avec plutôt que faire contre. Alors ça peut prendre sens politiquement quand même, je pense, mais ça se fait beaucoup de façon très individuelle et très rarement collective. Et puis, autre difficulté pour parler de résistance, c'est qu'il y a toujours cette idée de quitter l'entrepôt quand même. Et compris quand on s'approprie un espace comme la zone logistique en dénaturalisant les conditions de travail parce qu'on connaît dans chaque entrepôt comment ça fonctionne, au final, la critique la plus forte, ça va être de quitter un entrepôt pour aller vers un autre parce qu'on en a marre de cette forme-là et on sait qu'à côté, c'est pas la même chose. Donc il y a des entrepôts qui vont être stigmatisés par le groupe des ouvriers intérimaires sur les zones logistiques, comme des très gros entrepôts du e-commerce d'une marque très très connue, c'est Amazon on peut le dire, qui est vraiment stigmatisé parce que c'est désigné comme la maison des fous, parce que le management il est un peu trop subjectif, justement subjectivant, où ils cherchent un peu trop à les faire sourire, ils veulent pas sourire, ils préfèrent les entrepôts entre guillemets ghetto parce qu'au moins on est un peu plus tranquille, même si c'est moins valorisé, enfin bon. Et donc il y a vraiment cette idée-là, mais à la fin c'est sortir. C'est pour sortir de l'entrepôt et pas forcément pour résister dans l'entrepôt. Alors sur les parcours, je ne vais pas revenir, parce que c'est vrai que j'ai eu le temps d'en parler pas mal. Sur faire valoir ses droits, moi je trouvais ça très intéressant, cette idée aussi de savoir comment est-ce que dans les mondes ouvriers, on pouvait encore chercher à faire valoir individuellement ou collectivement ses droits. Et alors bien sûr, dans l'entrepôt, en fait, c'est assez peu présent. Dans l'univers de travail, je l'ai dit, l'enjeu c'est de sortir beaucoup. C'est vraiment perçu comme le lieu de passage dont il faut sortir. Alors il y a quand même certains secteurs de la logistique où il y a plus de syndicalisation, où il y a une des vraies structures syndicales assez solides et du coup des vraies négociations. Moi ça j'ai très peu observé. Par contre, il y a un droit qui est toujours souligné moi en entretien et c'est quelque chose qui m'a un peu surpris. C'est le droit à faire valoir le droit à la formation et au congé de formation. Et ça, c'est très fortement souligné. Il y a beaucoup d'ouvriers qui acceptent des CDI avec cette idée-là, avec l'idée de cumuler des droits à la formation. Et il y a un gros problème sur ce droit à la formation, c'est qu'en fait, il est assez peu effectif. Que pour obtenir des formations, c'est très difficile. Il faut faire plusieurs demandes sur plusieurs années. C'est des dossiers qui sont très lourds. Et en fait, ils ont l'impression que c'est quelque chose qu'ils auraient dû. Et très souvent, ils n'arrivent pas à l'obtenir, ou pas du tout dans les secteurs qu'ils envisageaient. Et c'est une grosse désillusion pour eux et c'est vraiment une grosse problématique sur les parcours professionnels. Voilà, merci.
Je vais revenir sur quelques points qu'a abordé Marie. C'est à mon tour, hein ? Oui ? C'est ça ? D'abord sur la question du travail relationnel, rapidement, juste pour dire que je pense que c'est très important de mettre en lumière ces catégories de femmes du salariat d'exécution qui sont, je pense, assez nombreuses, qui n'aspirent pas au travail relationnel et dont on parle pas suffisamment, je pense. Parce que c'est aussi une façon de réfléchir à cette catégorie de travail ouvrier ou de la séparation ouvrier-employé. Je pense que c'est assez compliqué en fait de savoir ce qui relèverait du travail ouvrier ou pas. Et en l'occurrence sur ce terrain, aucune n'a présenté de concours d'aide-soignante. Hein. Les concours qu'elles ont présentés, c'est des concours d'agents administratifs, mais qu'elles ont toutes ratées de très très loin, parce que la barrière de l'écrit était trop forte pour elles. Et inversement, mais c'est plus une généralité, mais on aurait des éléments, par exemple, dans le travail de François Ressa, ça serait intéressant d'aller chercher du côté des ouvriers ceux qui valorisent les éléments des hommes, ceux qui valorisent le travail relationnel, alors même qu'ils ont des tâches plutôt manuelles. Dans toutes ces situations de nettoyage où on est en contact parfois direct avec les bénéficiaires, c'est intéressant de le montrer. Je pense que ça serait une façon aussi de remettre en question cette catégorie du travail employé, ouvrier séparé du travail employé. Et toujours dans le même ordre d'idées, je voulais revenir sur la notion d'ouvriérisme que j'ai employée, qui n'est pas du tout satisfaisante, parce qu'en fait, en l'occurrence, même si les syndicalistes et d'ailleurs parfois des non-syndiqués parlent du fait qu'elles sont des ouvrières, elles n'ont pas non plus un discours très très constitué sur la classe ouvrière ou quoi, on n'entend jamais ce type de discours-là. Par contre, il y a une norme de basiste, on pourrait dire, quoi. C'est les exécutants, les petits contre les chefs, quoi. Donc c'est loin des agents d'atelier ou des ouvriers selon le vocabulaire, c'est une faute pour les syndicalistes. Et donc elles sont toujours ramenées à cette norme d'exigence d'être proches de leur base, on peut dire. D'ailleurs, à part une seule d'entre elles, elles n'ont pas de décharge. Elles travaillent en atelier tout le temps. Il y en a une qui a des décharges ponctuelles, mais qui en réalité, je l'ai compris par la suite, sont liées aussi à un aménagement de poste parce qu'elle a des faits de maladie, de TMS, elle ne peut pas tenir son poste toute la journée. Donc en fait, elles sont en atelier tout le temps, sauf elle. Et c'est un rappel à cette norme-là. Mais est-ce qu'il faut dire que c'est de l'ouvriérisme? En fait, j'en sais rien. C'est moi qui ai utilisé ce terme, c'est un raccourci. Mais on trouverait peut-être la même chose dans des supermarchés entre des caissières ou je ne sais pas, il faudrait aller regarder de plus près. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est sur cette interprétation que tu fais qu'elle serait isolée. En fait, c'est une erreur, je pense. C'est peut-être moi qui donne à penser ça, mais ce n'est pas le cas. Peut-être ce qui fait la particularité de cette blanchisserie du public par rapport à d'autres terrains, c'est que du fait de leur statut et du fait du statut de la plupart des ouvrières, elles ont une forte ancienneté. Donc c'est un lieu de travail où les gens se côtoient longtemps, sans, je l'ai dit, sans pratiquement aucune perspective de promotion. Donc c'est un lieu où il y a des clans très marqués, des conflits, des commérages, mais aussi des amitiés très fortes. Et elles sont prises là-dedans, mais elles n'ont pas une position en fait, particulière, je pense, par rapport à d'autres là-dedans. Enfin, si, elles ont une position particulière, mais comme les autres syndicalistes des autres syndicats. Par exemple, elles ne mangent pas ensemble à midi. Chacune a son groupe de copines qui ne sont pas forcément des syndiqués, d'ailleurs, pour la plupart qui ne le sont pas. Je pense que c'est plutôt une caractéristique de ce type d'univers de travail. Donc elles ont des spécificités, hein, je l'ai dit, c'est important dans leur rapport à la parole, dans leur rapport aussi aux institutions, mais elles sont plutôt quand même appréciées, elles sont plutôt porteuses de normes. C'est-à-dire qu'il y en a une notamment qui est consultée pour son savoir-faire en matière de coiffure, de maquillage, etc. Les événements qu'organise la CGT, par exemple pour le 8 mars, elles ont organisé une distribution de roses et où le seul homme de leur collectif là, de direction du syndicat devait faire la bise à tout le monde. Toutes les femmes de l'usine sont venues, donc c'était, même les cadres. Donc c'était un grand moment de gloire du syndicat et elles s'étaient faites super belles, etc. Et donc, elles sont plutôt reconnues en tant que telles, quoi. Après, il y a elles sont en conflit avec d'autres personnes, mais on ne peut pas dire qu'elles soient isolées. Et j'avais une autre chose à dire, mais là, ça m'a échappé. Mais pour alimenter l'idée qu'elles ont plutôt une position valorisée, même si à d'autres égards, elles peuvent être en conflit ou séparées d'autres syndiqués. Et donc, ça n'enlève pas l'idée, comme tu disais, que le syndicalisme dans le public décline d'une certaine manière. Mais là, dans ce lieu de travail, les gens sont syndiqués, mais très peu sont investis. Donc, elles, ce qui fait leur spécificité, c'est de s'investir.
Du coup, je vais répondre rapidement parce que je suis en train d'avoir des problèmes de respiration. Donc simplement, alors je voulais répondre un petit peu sur la dimension productive du travail ouvrier. Je crois que je rejoins ce que tu disais, David, je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris, mais c'est quelque chose d'extrêmement fort dans le discours patronal, en fait, plus que dans le discours ouvrier. C'est-à-dire que ce changement du nettoyage vers la propreté, je crois vraiment que c'est ça qui se joue à cet endroit-là, quoi. Parce que le problème du nettoyage, c'est justement que c'est un travail en négatif, toujours, quoi, quasiment. Il s'agit d'enlever du sale, d'enlever des tâches, etc. Mais effectivement, il n'y a pas de production à proprement parler. Et le terme de propreté, il sert à ça, en fait. Il sert à dire, on ne nettoie pas quelque chose, on n'enlève pas du sale, mais on produit du propre. Et alors, c'est complètement fictif, enfin, en tout cas, en bonne partie, mais je crois que c'est vraiment ça que cherche à faire ce discours patronal-là, qui se double de tout un discours sur la formation et ce genre de choses. Et qui, ce discours-là a un impact justement sur les questions de est-ce qu'on peut passer chef facilement ? De moins en moins, parce que justement, la formation se développe. Et on a des conflits très forts, en fait, justement, entre les chefs d'équipe devenus chefs d'équipe, ceux qui ont été ouvriers, etc., et qui tirent leur légitimité de ça, et ceux qui tirent leur légitimité d'un diplôme, mais qui, du coup, sont tout à fait dénoncés par les premiers. Chez les ouvriers, concernant la dimension productive, on y fait peu appel, sauf chez, justement, les ouvriers qui ont un rapport positif à leur travail. Les autres, j'ai vraiment le sentiment qu'on n'y fait pas appel du tout. Et chez les ouvriers qui ont un rapport positif à leur travail, on trouve quelque chose d'assez sexuel. Alors là, je fais un peu à la louche, hein, parce que je n'ai pas beaucoup réfléchi à cette question-là, mais comme ça, c'est ce que je répondrais, ça demanderait peut-être un peu plus d'investigation. Mais un truc assez sexué, où on a d'un côté des valorisations de la dimension productive sur des critères techniques. Donc là, par exemple, il y a un moment où je me suis beaucoup posé cette question-là, et en fait, il y a un moment où on produit quelque chose, effectivement, dans ce que j'ai pu observer, c'est la pose de cire. C'est-à-dire que là, on pose quelque chose, on a un produit, on ajoute quelque chose sur le sol, et on peut le voir, on peut le toucher, etc. Et ça, c'est la tâche la plus valorisée à l'hôpital. C'est-à-dire que c'est la tâche qui est réservée, c'est la seule tâche qui est vraiment réservée, c'est-à-dire où, si on demande de le faire, on peut nous dire non, quoi. On peut nous dire non, c'est pas toi qui le fais, c'est moi qui le fais, quoi. Si je demande à passer la décapeuse, on va toujours me laisser faire. Mais si je demande au chef qui veut montrer que c'est lui le plus important de me laisser poser la cire, il va dire non, là, c'est moi qui fais, parce qu'il faut bien faire, c'est technique, etc. Il y a un vrai enjeu à poser la cire, quoi. Donc, sur des choses techniques comme ça, et puis plus généralement, sur se réserver les tâches les plus qualifiées, qui sont celles où on peut justement démontrer un peu plus cette dimension productive. Ça, c'est plus quelque chose que font les hommes, j'ai le sentiment. Et puis, du côté des femmes, on va avoir une dimension productive, enfin, je pense que c'est une question de dimension productive, qui va passer par la reconnaissance. Et ça, Sandrine, par exemple, elle est beaucoup dans ça, c'est-à-dire que pour elle, une de ses fiertés, c'est que quand elle passe devant les médecins, les infirmières, on la connaît, on sait qui c'est, on sait qu'elle fait du bon travail, etc. Et elle dénonce l'autre chef d'équipe, je crois que je l'appelle Stéphane, il me semble. Non, je ne l'appelle pas Stéphane, mais bon, c'est pas grave. L'autre chef d'équipe, celui qui justement a été parachuté, il est mauvais parce que quand il passe dans un service, personne ne le reconnaît, on le prend pour un idiot qui n'est pas capable de bien faire le travail, etc. Donc c'est vraiment cette reconnaissance-là, c'est... Je pense que c'est vraiment au fondement de son rapport positif au travail, quoi. Ensuite, je voulais dire un mot de deux autres points. Le premier point, très rapidement, sur la question de ces pratiques ouvrières. Est-ce que, la catégorisation, quoi. Est-ce qu'il faut vraiment les catégoriser comme ouvrières puisque ces gens ne se disent pas ouvriers ? C'était un peu le but de ma conclusion. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il y a une vraie question. Et en même temps, abandonner le terme d'ouvrier me paraît vraiment poser problème, notamment du fait de cette dimension physique, manuelle, et du fait qu'il y en a qui se revendiquent ouvriers. Et en même temps, pour d'autres, on n'est pas du tout dans la valorisation de la figure de l'ouvrier. Donc leur dire « vous êtes des ouvriers », quelque part, c'est les remettre dans des cadres qu'ils cherchent à fuir, quoi. Donc je pense que ça pose un vrai problème. Je n'ai pas résolu la question, mais en tout cas, je rejoins vraiment l'idée que c'est une question à résoudre, quoi. Pour l'instant, moi, en gros, je m'en sors en disant ouvrier, mais en mobilisant beaucoup la notion de classe populaire plutôt que de classe ouvrière, ce qui est un peu une manière de noyer le poisson, je pense. Mais j'ai l'impression qu'on est un certain nombre à le faire. Dernier point sur la question des résistances. Alors, pour expliquer un peu rapidement, moi, ma thèse, c'était domination et résistance au travail. Et en fait, j'ai pris la question de la domination et donc des résistances à partir de Weber, en fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment pris l'idée de la domination, c'est quand on donne des ordres et qu'ils sont obéis, et qu'ils sont obéis volontairement et pas sous la contrainte, quoi. Et donc, dans cette mesure-là, la résistance, pour moi, c'est tout simplement quand on désobéit aux ordres, quoi. Quand on refuse un ordre, quand on remet en cause l'autorité, ou d'autres manières. Généralement, ça passe par une remise en cause de l'autorité, quand même, ou de la légitimité de l'autorité. Et donc, c'est vraiment ça que j'entends par résistance, d'où, là, effectivement, le caractère très large des choses. parce que ça peut être du syndicalisme très organisé, mais ça peut être... Alors d'abord, le syndicalisme peut aussi être le dominant, en fait, dans cette affaire. C'est notamment le cas un peu parfois à les vols à l'hôpital. Et puis, surtout, on va retrouver des résistances, du coup, des désobéissances à plein de petits niveaux, quoi, que ce soit dans le freinage, que ce soit sur un point très précis, non, je ne ferai pas ce travail. Quand il y a des hommes, par exemple, qui refusent de faire ce travail parce que c'est du ménage. Et ça, c'est bien. Pour moi, c'est vraiment une résistance qu'ils mettent en œuvre, qui, par ailleurs, met en œuvre un rapport de domination autre auquel ils font appel en disant c'est pas un travail d'homme, c'est un travail de femme, et donc je refuse ce travail. Mais donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez large. Et dernier point sur lequel je voulais répondre, c'est est-ce que finalement tout ça, le freinage, ces petites pratiques de résistance quotidienne, est-ce qu'on les surinterprète pas, quoi ? Est-ce qu'on n'en fait pas quelque chose de très politique, alors que finalement il ne s'agit que de s'économiser et on est un peu en train de surinterpréter tout ça. Et là, je pense que... Alors, je ne sais pas si j'ai un désaccord ou si c'est simplement une question de compréhension, mais c'est des manières de s'économiser, quoi, le freinage. Et c'est toutes ces pratiques de travail en périque ou ce genre de choses. Enfin, pas que de s'économiser, mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent être très individuelles, etc. Mais ça n'en fait pas quelque chose de pas politique. Au contraire, je pense. C'est-à-dire qu'effectivement, un enjeu du freinage, c'est de se dégager du temps. Et du temps à ne rien faire ou à faire autre chose, etc. Et on pourrait se dire, bon, bah, c'est juste pour se reposer. J'ai presque terminé. Ouais. Mais simplement, le fait de se reposer transforme en fait les rapports de pouvoir, quoi. Et c'est là que c'est politique. Pour moi, c'est qu'en faisant ça, on se réapproprie le temps que l'entreprise contrôlait, enfin, que ce soit l'entreprise ou d'autres formes de dominants. Ça peut déboucher après sur des formes de résistance qui sont plus... pas plus politique, mais plus collective, on va dire. Et donc, par exemple, le freinage, poussé à son terme, c'est ce qui se passe à Valévol, il n'est plus caché. C'est-à-dire que tout le monde sait que le matin, les ouvriers sont dans le vestiaire à ne rien faire littéralement, et les chefs n'entrent pas dans le vestiaire, parce qu'ils ne peuvent pas y rentrer, quoi. Ils savent qu'ils se feraient jeter, etc. C'est-à-dire que le freinage est devenu tellement fort qu'il peut s'affirmer comme ça, alors qu'il est tout à fait illégal et pourrait être prétexte à licenciement... Voilà, j'ai terminé.